France Inter.
Et voici le 13-14 de France Inter avec Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Il faut être puissant dans ce monde si brutal, l'avertissement d'Emmanuel Macron lors de ses vœux aux armées en ce moment, le chef de l'État qui dénonce aussi un nouveau colonialisme. Nous sommes sur place sur la base aérienne d'Istres dans un instant, à l'heure où l'en France envoie également des soldats au Groenland que les Américains veulent annexer. Nous verrons ce que pourra cette force dans le Grand Nord et nous y reviendrons à partir de 13h30 avec nos invités. Nous parlerons notamment de Saint-Pierre-et-Miquelon. Des élus alertent depuis plusieurs jours sur les appétits américains dans la région. Nous les écouterons et puis j'attends vos appels 01 45 24 7000 pour être avec nous. À suivre encore la situation en Iran et les pays voisins, Arabie Saoudite et Turquie notamment, qui s'inquiètent d'une éventuelle chute du régime. La grève des médecins français qui se poursuit. Bonjour Victor Delande.
Bonjour Jérôme.
Même si les négociations avancent enfin.
Oui, au 11e jour de mobilisation, est-ce bientôt la sortie de crise? Les syndicats et la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, discutent notamment sur l'encadrement des prescriptions d'arrêt de travail des médecins généralistes. C'est le point de crispation numéro 1 entre les médecins et le gouvernement.
A tout de suite pour vos précisions. Un chercheur girondin soupçonné d'ingérence avec la Chine. Et puis cet acteur américain, bonjour Xavier Demani.
Bonjour à tous.
Qui fait breveter sa voix et son visage, c'est une première.
Oui, Matthew McConaughey espère se protéger des clones réalisés avec de l'intelligence artificielle.
Vous nous direz comment on fait, 13h50. C'est la France, contrairement aux apparences, les sirops à l'eau se portent bien, production active dans notre pays. Ce sera avec Marie-Luce Ribot du journal Sud-Ouest. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, le percussionniste Arnaud Dolmen, demande le chanteur guadeloupéen Patrick Saint-Éloi. Ce sera avec Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
C'est d'Istres que partent les avions ravitailleurs de Rafale, chargés de sécuriser le ciel de l'Est de l'Europe face à la Russie. Mais c'est une autre menace, à l'Ouest cette fois, qui est dans toutes les têtes aujourd'hui, sur cette base aérienne où Emmanuel Macron présente donc ses vœux aux armées. La menace américaine sur le Groenland, le président de la République est en train de s'exprimer. On l'écoute.
Notre effort de défense va continuer. Parce que, comme je vous l'annonçais le 13 juillet dernier, l'accélération des périls commande d'accélérer le réarmement de la France. Pour rester libre, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. Et pour être puissant dans ce monde si brutal, il faut faire plus vite et faire plus fort. Cela suppose que la nation consente à des efforts à la mesure de notre rude époque. Voilà pourquoi j'ai souhaité, le 13 juillet dernier, avancer à l'année 2027 l'objectif, initialement prévu pour 2030, d'atteindre un budget annuel de 64 milliards d'euros pour notre défense. Ainsi, en deux mandats, le budget des armées aura été doublé.
Le président de la République qui s'exprime en ce moment sur cette base d'Istres. Bonjour Éric Bégala.
Bonjour.
Vous êtes en train d'écouter ce discours. Le président français demande un effort supplémentaire dans un monde où les conflits se multiplient.
Oui, alors c'est un effort qui est programmé, hein, puisqu'il s'agit, en langage technique on appelle ça les surmarches budgétaires, en fait, des équipements supplémentaires pour renforcer l'autonomie stratégique française, comprenant la défense sol-air, des capacités d'engagement à court terme qui doivent être accélérées, des drones, il faut aller plus vite, nous sommes en retard sur les drones, a précisé le président de la République, et puis les surmarches c'est aussi un effort de 2 milliards pour 2026-2030 pour le service national volontaire auquel Emmanuel Macron tenait beaucoup, et ce depuis 2017. Le président de la République a également un petit peu balayé large les déploiements des forces françaises, qu'il s'agisse du Moyen-Orient, qu'il s'agisse de l'Afrique, même où, en Afrique, en fait, on a réorganisé, je reprends ces termes, avec des partenariats d'équilibre dans certains, beaucoup mieux cernés qu'avant, les déploiements éventuels dans certains pays. Et puis, le président de la République vient tout juste de préciser quelques petites choses quant au déploiement français sur le Groenland. Une équipe est déjà sur place. Elle sera renforcée, a dit Emmanuel Macron, par des moyens aériens, terrestres et maritimes dans les prochains jours, et ce à la demande des autorités danoises qui ont pris langue avec le chef d'état-major des armées. L'Europe de la défense, c'est une réalité, a conclu Emmanuel Macron en parlant de ce déploiement essentiellement européen au Groenland.
Au Groenland, on va y revenir dans un instant. Merci Eric Biegala en direct avec les moyens techniques de Gilles Gallinaro, précisément Christian Chesneau. Bonjour Christian.
Bonjour.
Rédaction internationale de Radio France également. Qu'est-ce qu'on sait de cette force qui va se déployer au Groenland avec des soldats de quatre pays dont la France? Officiellement, il faut quand même dire qu'il s'agit non pas de faire face aux menaces américaines, mais aux menaces russes et chinoises.
Oui Jérôme, alors ces différents déploiements s'inscrivent dans le cadre de l'exercice militaire danois Arctic Endurance, qui démarre aujourd'hui et se poursuit jusqu'à samedi prochain. Les premiers soldats français sont donc déjà arrivés sur place, avait fait savoir l'ambassadeur de France au pôle et aux océans, Olivier Poivre d'Arvor. Ils sont une quinzaine appartenant à des unités de montagne aguerries au climat froid, et on vient de le voir, d'autres soldats suivront, comme l'a dit le président Macron dans ses vœux à Istres. De son côté, l'Allemagne a décidé d'envoyer 13 militaires de la Bundeswehr au Groenland. Le Royaume-Uni a également dépêché un officier. Alors, il s'agit d'une mission de reconnaissance pour évaluer la sécurité de cet immense territoire et notamment les capacités de surveillance maritime. L'Allemagne pourrait dépêcher sur zone son P-8A Poseidon, un avion de patrouille en mer et de lutte anti-sous-marine, et le ministère allemand de la Défense qui justifie donc dans un communiqué cette opération en raison des menaces russes et chinoises, sans faire aucune référence aux convoitises territoriales de Donald Trump.
Merci Christian Chesneau. Pourtant ce matin, les mots de la première ministre danoise Mette Frederiksen ont été très clairs. L'ambition américaine de prendre le Groenland, dit-elle, reste intacte. Il y a un désaccord fondamental. Fin de citation. Il y avait ce matin à l'Élysée un conseil de défense. Il y a été question donc du Groenland, mais aussi de l'Iran. La situation en Iran préoccupe beaucoup les pays voisins qui craignent une guerre civile. La Turquie dit non ce matin à toute opération militaire dans le pays pour soutenir les opposants. Des manifestants qui ont payé cher leur révolte, au moins 3400 morts selon l'ONG basée en Norvège et qui fait référence. Et puis il y a le sort des prisonniers, comme ce jeune homme, Erfan Soltani, accusé de rassemblement contre la sécurité nationale. Les ONG craignent qu'il ne soit condamné à mort et exécuté. Téhéran a démenti ce matin. Valérie Crova.
Il pose tout sourire, ici devant un gâteau d'anniversaire, là, avec un petit chien dans les bras. Une autre photo, reprise par toutes les ONG de défense des droits de l'homme, montre ce jeune homme qui nous regarde droit dans les yeux, comme s'il nous interpellait. Derfan, on sait qu'il vend des vêtements. Sur X, une jeune femme d'origine iranienne qui vit aux États-Unis cite des membres de sa famille. « Ils n'ont pas fermé l'œil de la nuit », crie-t-elle. « Ils sont restés éveillés jusqu'à l'aube, au moment où la plupart des exécutions ont lieu en Iran. » Ses proches décrivent Erfan comme un frère aimant, un jeune homme courageux qui n'aurait jamais eu recours à la violence, et sa mère d'implorer qu'on l'aide à sauver son enfant. S'il échappe pour l'instant à la pendaison, Erfan est accusé de rassemblement contre la sécurité nationale et de propagande contre le système. Il encourt une lourde peine de prison. Selon Iran Human Rights, ONG basée en Norvège, plus de 10 000 manifestants ont été arrêtés depuis le début du soulèvement en Iran.
Explication Valérie Crova. Le sort de Soltani et des autres manifestants arrêtés est donc surveillé de près par les pays de la région, Turquie, Arabie Saoudite, Émirats et Qatar, qui redoutent en fait que le pouvoir iranien ne tombe, d'où leur crainte de frappes américaines en Iran. C'est ce que nous dit Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen.
Une opération militaire américaine en Iran est perçue par les monarchies du Golfe comme une menace directe sur leur sécurité et sur leur prospérité. Donald Trump est très sensible à la diplomatie transactionnelle des pays du Golfe. Et c'est pourquoi tous ces États redoutent une déstabilisation de l'Iran et la création d'un vide total dans le jour d'après, avec des conséquences directes dans toute la région. Les monarchies du Golfe, et particulièrement l'Arabie Saoudite, aujourd'hui poids lourd dans le monde arabe et musulman, ont réussi à convaincre Donald Trump de réviser ses plans, de ne pas se précipiter dans l'objectif de renoncer provisoirement ou à opter pour une opération limitée pour éviter une escalade régionale.
Hasni Abidi sur la situation en Iran au téléphone d'Omar Waman.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
C'est une colère qui s'exprime sans blocage d'autoroute ni dépôt d'ordures, contrairement aux agriculteurs, mais une colère qui dure, celle des médecins en grève depuis 10 jours maintenant contre le budget de la Sécurité sociale 2026. Victor Dolande, on vous retrouve, vous êtes notre spécialiste santé. Vous êtes en mesure de nous dire que les choses bougent enfin. La discussion entre les syndicats et la ministre Stéphanie Rist tourne en fait autour de l'encadrement des arrêts de travail.
Oui, ce qui crispe les médecins généralistes à l'initiative de ce mouvement, c'est le projet de loi de lutte contre les fraudes qui prévoit de rendre obligatoire la mise sous objectif d'un médecin qui prescrirait beaucoup d'arrêts de travail. C'est vraiment la première revendication des syndicats. Ça discute ferme en ce moment entre la ministre et les syndicats. À voir justement si Stéphanie Rist va faire une concession sur le sujet. Autre grief souvent mis en avant par les médecins, un nouveau pouvoir donné à l'assurance maladie dans la loi de financement de la sécurité sociale. Les autorités sanitaires, en cas d'échec du dialogue social, pourraient fixer les tarifs de certains actes médicaux de manière unilatérale. Et là-dessus, Thomas Fatum, le directeur de l'assurance maladie, s'est montré très clair hier en commission des affaires sociales du Sénat. Il veut les retirer le plus tôt possible, a-t-il expliqué.
Car même si globalement, Victor, la mobilisation n'est pas massive, elle a des conséquences. Plusieurs hôpitaux sont débordés par l'afflux de malades.
Oui, entre l'épidémie de grippe, les autres virus hivernaux et la grève des médecins libéraux, de plus en plus de patients attendent sur des brancards dans les couloirs des hôpitaux. Des établissements ont même été obligés d'activer leur plan blanc ces derniers jours. C'est le cas à Avignon, Toulouse, Perpignan, La Roche-sur-Yon, Lons-le-Saunier, Saint-Dizier, Niort, Saint-Malon, Mâcon-Nevers. Et la liste, bien sûr, n'est pas exhaustive. Le plan blanc, Jérôme, c'est une mesure, je vous rappelle, qui permet d'ouvrir plus de lits, mais aussi de déprogrammer certains soins non urgents et de rappeler des soignants sur leur congé pour faire face justement à cet afflux de malades.
Information signée Victor Dolande. Je reviens un instant sur les agriculteurs. Les actions se sont poursuivies ce matin avec des blocages de dépôts pétroliers en Savoie à Albens, même si le blocage a été levé il y a quelques dizaines de minutes. Blocage également du dépôt pétrolier de Vatry dans la Marne ou encore de celui de Saint-Pierre-des-Corps près de Tours. Des convois de tracteurs sont également entrés dans Lyon ce matin à l'appel de la FNSEA avec des agriculteurs venus de la Loire et de la Haute-Loire, toujours pour dénoncer l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Et pour calmer ce mouvement, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, elle jouait la carte ce matin de la communication. Elle était à l'aéroport de Roissy, où certains produits exotiques importés sont désormais bloqués. Reportage Édouard Marguet.
Des centaines de tonnes de fruits et légumes atterrissent ici chaque jour. En plus de la vérification systématique des documents, les douaniers prélèvent des échantillons pour les envoyer dans un laboratoire d'État situé à 50 km de Roissy. L'équipe dirigée par Frédéric Saltron analysera par exemple ces haricots verts venus du Kenya, mis sous scellé sous les yeux de la ministre.
Et on va rechercher de très grand nombre de pesticides. On a à peu près une palette de pesticides d'environ 400 molécules.
Vous avez noté que depuis la semaine dernière, j'ai interdit 5 nouveaux pesticides. Donc ils sont désormais recherchés. Absolument. Au laboratoire de Massy.
Absolument, ils font partie de notre palette et on est capable de répondre à ces nouvelles dispositions, absolument.
Les produits qui contiennent des substances interdites seront détruits. Annie Genevard veut compléter ce dispositif en créant une brigade de contrôle des produits importés, une centaine d'agents qui auront une mission très précise.
Qui contrôleront évidemment les camions et dans les magasins où se distribuent des produits importés. Vous voyez bien les actions des agriculteurs qui ouvrent des camions sur la route. Il faut organiser tout cela, c'est à l'État de conduire ces contrôles.
Annie Genevard donne un objectif de 3000 contrôles à effectuer dès cette année.
Édouard Marguier à Roissy pour Inter. Moins d'inflation commande de baisser la rémunération du livret A. Elle va donc passer à compter du 1er février de 1,7% à 1,5%. Annonce faite ce matin par le ministre de l'économie, Roland Lescure. Cela concerne 57 millions de Français. Le livret d'épargne populaire, lui, qui est réservé aux épargnants les plus modestes, reste plus intéressant, même s'il passe de 2,7% à 2,5%. Pour autant, ces baisses n'auront pas forcément d'impact sur la consommation. C'est ce que nous dit Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne.
C'est évidemment une division par deux du taux du livret A par rapport à ce qu'il était début 2025. C'est assez logique, hein, c'est la conséquence de la baisse de l'inflation. Alors c'est une mauvaise nouvelle parce que évidemment un taux qui baisse, c'est moins d'argent en termes d'épargne placée. Après, le rendement réel reste positif. On gagnera peu avec son livret, mais on ne perdra pas d'argent, ce qui n'a pas été toujours le cas en 2022-2023 quand l'inflation était aux alentours de 6%. 3%. Certes, le livret A était à 3%, mais c'était nettement en dessous de l'inflation de l'époque. Le gouvernement souhaite évidemment que la baisse du taux du livret A incite les Français à aller un peu plus dans les boutiques, que ce soit physique ou en ligne, mais ce n'est pas une garantie. La consommation, ça ne se décrète pas. Il y a d'autres facteurs qui incitent ou dissuadent. C'est le contexte économique, social, voire politique et géopolitique qui fait que les Français achètent ou n'achètent pas.
Philippe Crevel au téléphone de Claire Chaudière. Un chercheur français a-t-il transmis des informations sensibles à la Chine? C'est en tout cas ce que soupçonne la justice qui a mis en examen mi-décembre un enseignant-chercheur à l'Institut d'ingénierie et de mécanique de Talence, c'est tout près de Bordeaux, en Gironde. Cet homme aurait en fait accueilli une délégation chinoise dans un laboratoire du campus Alice Marot.
Un laboratoire ultra sécurisé. Pour entrer dans ce bâtiment de Talence, il faut badger, les identités sont contrôlées. Or, ce professeur est soupçonné d'avoir fait pénétrer des membres d'une délégation chinoise dans des zones interdites, classées très sensibles. Après un signalement, une enquête est ouverte en janvier 2024. Le professeur est interrogé une première fois l'année dernière. Son matériel est perquisitionné. Et ce que retrouvent les enquêteurs lui vaut d'être poursuivi, notamment pour livraison d'informations à une puissance étrangère. Pour cela, il risque 15 ans de réclusion, plus de 200 000 euros d'amende. Par la voix de son avocat, ce professeur dit, lui, émettre des réserves sur les faits qui sont évoqués, mais ne souhaite pas davantage communiquer pour l'instant. Il réserve ses explications au juge d'instruction. Aujourd'hui, il a été laissé libre sous contrôle judiciaire, mais n'a plus accès à son laboratoire.
Précision ici, Gironde. Le parquet de Meaux annonce l'ouverture d'une enquête pour harcèlement scolaire ayant conduit la victime à se suicider après la mort d'une adolescente de 17 ans qui s'est donné la mort hier en gare de Mitry-le-Neuf, département de Seine-et-Marne. La famille de cette adolescente, élève de terminale, affirme que leur fille était victime de harcèlement scolaire dans son établissement. Au palais de justice de Paris, le procès en appel de plusieurs responsables du Rassemblement national pour détournement de fonds publics européens. Ce procès entre dans le vif du sujet aujourd'hui avec l'audition du représentant du Parlement européen, Parlement victime dans cette affaire. En première instance, les juges avaient estimé le préjudice pour lui à 4,1 millions d'euros. Bonjour Charlotte Piret.
Bonjour.
Vous suivez ce procès pour Inter. À la barre, ce matin, il a tenté de contrer par avance les arguments de la défense.
Oui, en déclarant d'emblée « le Parlement européen est la victime d'un système », le directeur général des finances de l'institution reprend l'un des termes forts du jugement de première instance, celui donc d'un système mis en place par le Rassemblement national pour faire des économies en détournant l'argent de l'institution européenne. Et le haut fonctionnaire de rappeler cet organigramme du Rassemblement national publié en 2015, 20 assistants parlementaires européens y figurent, mais présentés sur le schéma comme directeur de cabinet, délégué aux grandes manifestations ou graphiste pour le parti. Pourtant, précise encore le représentant du Parlement, la règle a toujours été très claire, la même qu'à l'Assemblée nationale ou au Sénat, insiste-t-il encore, c'est interdit. Une règle pas si évidente, lance l'avocat de Marine Le Pen. Si, de la même manière qu'un salarié ne peut travailler sur son temps de travail pour le compte d'une autre entreprise. Mais alors, poursuit à son tour l'une des juges, est-ce que vous avez été trompé parce que c'était trop bien dissimulé ou parce que vous avez manqué de vigilance? 6500 personnes bénéficient de contrats en lien avec les eurodéputés, explique encore le haut fonctionnaire. En l'absence d'alerte, impossible donc de vérifier l'activité de chacun.
Compte rendu d'audience signé Charlotte Piret. L'ancien champion olympique de natation Yannick Agnel sera bien jugé pour viol sur mineur. Ce sera devant la cour criminelle du Haut-Rhin, la cour d'appel de Colmar. L'a confirmé ce matin, Yannick Agnel, 33 ans, est soupçonné d'avoir une relation avec Naomi Horter, la fille de son entraîneur, alors âgé de 13 ans. Il plaide, lui, une relation consentie et amoureuse, mais il sera bien jugé pour viol et agression sexuelle. C'est à Marseille, l'une des principales affaires d'escroquerie immobilière jugée ces dernières années dans notre pays. Le procès de l'affaire Apollonia, du nom de cette société qui proposait d'investir dans des logements soi-disant très rentables, des logements qui ont au final ruiné et surendetté les acquéreurs victimes. Plus d'un milliard d'euros de préjudice, 750 parties civiles qui attendaient depuis près de 20 ans ces condamnations. C'est fait, le tribunal Mathilde Vincenot a prononcé des peines allant jusqu'à 7 ans de prison ferme.
Jean Badache, 71 ans, et Viviane Badache, 69 ans, le couple au cœur de l'escroquerie, condamné chacun à 7 ans de prison ferme et 2,5 millions d'euros d'amende. Le tribunal fustige leur indifférence à l'égard des victimes. Elles sont nombreuses dans l'immense salle d'audience. 750 parties civiles, médecins, chercheurs, enseignants qui ont fait confiance à la société Apollonia pour investir dans l'immobilier et qui se sont retrouvés ruinés. Deux notaires, un avocat et des commerciaux sont aussi condamnés à de la prison ferme jusqu'à 5 ans, des peines saluées par maître Christophe Gervolino, avocat de 200 familles parties civiles à ce procès.
C'est une victoire pour mes clients. Les clients, ils sont endettés en moyenne à 3 millions d'euros chacun. Ils ont tout perdu dans cette affaire.
Pour beaucoup de victimes, c'est la fin de la culpabilité, culpabilité de s'être fait avoir. Pascal Hoffmann s'est effondré en larmes sur les bancs de la salle d'audience. Le tribunal a reconnu que son époux était bien mort à cause de cette escroquerie.
C'est bien ça qui enlève un poids très important qu'on portait tous en famille de pourquoi il est mort, c'est d'avoir reconnu que c'est l'affaire Apollonia. Ça m'a beaucoup soulagée.
Mais les parties civiles le savent, ce n'est pas la fin du combat judiciaire. Les avocats des époux Badache ont déjà annoncé leur intention de faire appel.
Mathilde Vinceneux, correspondante d'Inter à Marseille. Marseille où un homme avait été tué par balle le 4 janvier dernier dans le quartier de Belzunce, à proximité d'un point de deal. Eh bien, selon le parquet de Marseille, cet homme était en fait une victime collatérale. Il n'était pas visé ce soir-là. L'affaire a marqué les esprits à Calais. L'assassinat fin octobre d'une ancienne championne cycliste, Cindy Morvan, 39 ans, tuée de plusieurs balles sur le pas de sa porte par la compagne de son ex-compagnon, une femme qui, après son geste, s'était suicidée en laissant des aveux. Mais les policiers soupçonnent l'ex-compagnon des deux femmes, la meurtrière et sa victime, d'avoir joué un rôle dans cette affaire. Après avoir été placé en garde à vue, il a été mis en examen hier pour complicité d'assassinat. Il est en détention provisoire, Charlotte Schumacher.
Dans l'entourage de Cindy Morvan, le placement en détention de l'ancien compagnon est un soulagement. Quasiment tous les proches de la victime le décrivent comme mythomane et manipulateur et sont persuadés que le cycliste amateur, père de famille, qui multipliait les conquêtes, est impliqué de près ou de loin. La meurtrière qui s'est suicidée dans sa voiture était sa nouvelle compagne. La procureure de Boulogne explique que divers éléments laissent penser qu'il aurait pu intervenir dans l'instigation et la préparation de l'assassinat. Peu de temps avant la mort de Cindy Morvan, l'homme avait vendu tout son matériel de vélo et des effets personnels. Selon un organisateur de course, il cherchait aussi à se procurer une arme. Il disait être menacé. Depuis la mort de Cindy Morvan, il se faisait très discret. Dans un dernier message écrit le 21 octobre, 10 jours avant le drame, il signait un message énigmatique sur sa page Facebook par ces mots. Merci à tous ceux qui ont été présents pour moi, surtout une personne en particulier. À très bientôt, ou pas.
Précision ici Nord. Dans des milliers de communes de France débute aujourd'hui le recensement 2026 pour connaître le nombre exact d'habitants de notre pays. Ça dure un mois dans les communes de moins de 10 000 habitants, 7 000 communes concernées, puis dans toutes les communes de plus de 10 000 habitants. Là, c'est un recensement tournant. Ça se passe tous les ans, mais à chaque fois sur un échantillon de logements différents dans la ville. Et cette méthode n'est pas adaptée. C'est ce que dit aujourd'hui le maire de Grandville en Normandie, Gilles Ménard.
Moi, à titre personnel, ce que je pense du recensement, c'est que le système est perfectible, puisque depuis quelques années, on ne prend pas de manière exhaustive la population en comptage, mais on procède par sondage, par échantillon. Et je suis intimement convaincu que ça ne correspond pas à la réalité. Je préférais qu'on recense une bonne fois pour toutes, par exemple tous les 5 ans ou tous les 6 ans, la population de A à Z. Ça serait de manière exhaustive, ça serait beaucoup plus pertinent, puisque le système actuel, pour moi, représente une certaine dérive. À titre personnel, ça fait, je crois, 25 ans que je n'ai pas été recensé sur Grandville. Alors en tant que maire, ce sont des données INSEE qui sont effectivement extrêmement importantes, notamment par rapport aux ressources des communes, puisque les dotations globales de fonctionnement sont issues de ces fameux recensements. Mais je le répète, pour moi, ça ne reflète pas forcément la réalité.
Le maire de Grandville au micro d'ici Cotentin. Le retour est anticipé, mais il s'est bien passé ce matin au large de la Californie, dans l'océan Pacifique, pour les 4 astronautes de la Station Spatiale Internationale. Leur capsule Crew Dragon a atterri sans problème au large de San Diego. Bonjour Sophie Becherel.
Bonjour.
L'un de ces astronautes, on le sait, est victime d'un problème médical. Vous avez regardé avec attention les images. Difficile d'en savoir plus.
Ben oui, une fois la capsule déposée sur le pont du navire de récupération, les 4 astronautes ont été extraits un à un. Le pilote, Mike
Jake Fink est sorti le premier, souriant. Il a aussitôt été allongé sur un brancard pour subir un contrôle médical. Un indice sur son état de santé fébrile ? Même pas, car cela n'a rien d'exceptionnel de voir, après plus de 5 mois de mission, les astronautes manquer de force musculaire pour se tenir debout ou zigzaguer. Lui ont succédé la commandante de la mission, Zena Kardman, en forme, le japonais, Kimiya Yui, et le russe, Oleg Platonov, tous trois capables de se tenir debout sans assistance, mais même traitement pour eux, le brancard, avant d'aller voir les médecins. Pour celui ou celle qui a donc besoin d'examens médicaux ou d'un traitement immédiat, les hôpitaux locaux se tiennent prêts, avait fait savoir la NASA. Vous l'aurez compris, le secret médical est parfaitement gardé. C'est la première fois depuis le début de l'ISS qu'une mission est écourtée d'un mois pour une raison médicale. Il y a eu deux précédents du temps des Russes, dans Salyut et Mir, une infection urinaire et un problème cardiaque. Il reste en ce moment un équipage minimal dans l'ISS, deux Russes et un Américain. Ils seront rejoints au plus tard le 15 février, peut-être même une semaine avant, par l'équipage numéro 12, celui de la Française, Sophie Adnaud.
Départ anticipé donc pour elle.
Possiblement d'une semaine.
Merci Sophie Becherel. Les progrès de l'intelligence artificielle sont tels qu'elle parvient quasiment désormais à imiter la voix humaine. Les progrès sont extrêmement rapides et voilà pourquoi l'acteur américain Matthew McConaughey, vu dans Interstellar ou encore dans la série True Detective, a fait breveter son image et sa voix auprès de l'Institut américain de la propriété intellectuelle. Tout ça pour les protéger des contrefaçons de l'IA, que ce soit aujourd'hui ou dans le futur. Xavier Demani, concrètement, comment a-t-il fait ?
Eh bien, des démarches, comme pour une marque. Il a obtenu la validation de plusieurs brevets sur la base de vidéos de son image et de sons de sa voix.
There's two keys to success in the broker business. First of all, you gotta stay relaxed.
On l'entend ici dans le Loup de Wall Street.
Ça, c'est la vraie voix.
Voilà,
hein,
duo avec DiCaprio. Au total, 8 extraits des vidéos ou des sons dans lesquels il sourit, il parle, notamment ce fameux...
All right.
Réplique culte aux États-Unis, sa première apparition au cinéma 93 dans Dazed and Confused, Génération Rebelle.
Ça le protège vraiment ?
Alors, ses avocats estiment en tout cas que ces marques déposées sont un moyen d'attaquer en justice toute utilisation non autorisée. On se souvient de l'avatar de Scarlett Johansson en 2023, créé sans son consentement. C'est arrivé aussi à Tom Hanks ou Taylor Swift. Aujourd'hui, le cadre légal est assez flou et protège surtout les détournements à fin commercial. Ce qui est intéressant, c'est que Matthew McConaughey n'est pas du tout anti-IA. Il est même actionnaire d'Eleven Labs, société de clonage vocal, qui lui permet par exemple de traduire son podcast en espagnol.
Hola, y con mi permiso, Eleven Labs trabajó conmigo para traducir mi voz.
Il tente donc une approche, disons, proactive. L'avenir nous dira s'il sera suivi par d'autres artistes ou non. Ou peut-être un jour par vous, Jérôme, The Voice du 13-14.
Ah, je ne souhaite pas du tout être doublé par l'IA. Je ne sais pas si j'irai jusqu'à faire breveter tout cela. Merci Xavier Demani, mais enfin je vais y réfléchir après vous avoir écouté attentivement. 13h27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure de ce 13-14, la météo de Céline Dacosta. Puis à partir de 13h30, gros plan sur le Groenland, territoire convoité par les Américains, sur lequel des soldats français vont poser le pied dans les prochaines heures, c'est déjà le cas, mais aussi plus au sud, sur l'un de nos territoires d'outre-mer, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon. Là encore, il y a des interrogations, il y a des menaces, et nous serons en ligne avec le député de Saint-Pierre-et-Miquelon notamment, mais avec d'autres acteurs de cette région dans les prochaines minutes. 01 45 24 7000 pour vos questions, pour être avec nous. 13h45, notre feuilleton avec les gendarmes en haute montagne de Briançon, ils sont sur le pont en cet hiver, les avalanches menacent et tuent. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Marie-Luce Ribaud et Frédéric Pommier, bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour à tous.
Marie-Luce, vous nous parlez de sirop.
Ah oui, les sirops à l'eau. Le conflit social qui s'enlise chez le leader Tesser porte à croire que nous n'en buvons plus. On va voir que nous sommes au contraire des inconditionnels de cette boisson.
Merci Marie-Luce. Et avec vous Frédéric, un musicien.
Arnaud Dolmen, batteur de jazz, qui sera en concert demain soir à Paris. Et avec lui, nous écouterons du Zouk, un morceau de Patrick Saint-Éloi qu'il a découvert enfant grâce à l'un de ses oncles.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
France Inter, 16h-18h, Mathieu Noël.
Une chance que j'ai pas prévu de vacances au Maroc en février, j'aurais été obligé de les annuler puisque je vais certainement être persona non grata là-bas suite à cette émission sur Mohamed VI. Ce jeudi, zoom sur le bilan du roi du Maroc après 26 ans de règne.
Zoom Zoom Zen, tous les jours de 16h à 18h sur France Inter.
France Inter présente le bilan du monde. Dans ce hors-série annuel, la rédaction du Monde revient sur une année 2025 marquée par un retour des impérialismes américains, russes et chinois, une Union européenne stigmatisée et une crise politique française. Pour mieux comprendre les défis de 2026, le bilan du Monde dresse l'état des lieux des 198 pays et propose une synthèse des événements marquants de l'actualité internationale, économique et environnementale de l'année écoulée. Le bilan du Monde à lire en ce moment. Un partenariat France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Forte pluie et coup de vent sur le nord-ouest.
Oui, d'ailleurs le Finistère est toujours en vigilance orange, pluie et inondation pour ces fortes averses, au moins jusqu'à 16h. La perturbation, elle ondule cet après-midi des Pays de la Loire aux côtes de la Manche. Elle est accompagnée, vous le disiez, de bonnes rafales de vent, 60-80 km à l'heure dans les terres, jusqu'à 100 km à l'heure sur les côtes du Morbihan notamment. Un vent de sud-ouest qui est d'ailleurs bien présent également sur les côtes atlantiques, qui va se renforcer cet après-midi sur l'ouest des Pyrénées, avec des rafales à plus de 90 km à l'heure. Ça souffle également près de la Méditerranée, mais là, le ciel va rester couvert sur le Languedoc-Roussillon avec des averses sur le relief Cévenol. Et puis pour le reste du pays, c'est plutôt calme. Encore bien gris sur le reste de la moitié nord avec localement quelques ondées. Plus lumineux malgré un soleil bien voilé sur la région Midi-Pyrénées, le nord de l'Auvergne et puis de l'Alsace à la région PACA et en Corse, où là, le soleil sera plus généreux, notamment sur les Alpes. Mais attention, le risque d'avalanche est toujours très élevé sur le secteur.
Et toujours des températures très douces.
3 à 5 degrés au-dessus des normales de saison, 10 à 17 degrés du nord au sud, 10 à Cherbourg pour la plus basse, 17 pour la maximale à Ajaccio, en passant par 12 à Paris ou 14 à Bordeaux.
Céline Dacosta.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Une première équipe de militaires français a été déployée au Groenland. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron dans ses vœux aux armées il y a quelques minutes sur la base aérienne d'Istres. Et ces premiers militaires seront accompagnés dans les prochains jours de nouveaux moyens terrestres, aériens et maritimes, toujours dans ce territoire autonome danois, mais convoité par les Américains. Le président de la République qui explique également que les soldats français défendront les intérêts qui sont menacés partout, voilà, et pas uniquement au Groenland. D'où notre réflexion aujourd'hui autour d'un territoire français situé dans l'Atlantique Nord et pas très loin des côtes nord-américaines. C'est Saint-Pierre-et-Miquelon. Bonjour Stéphane Lenormand.
Oui, bonjour.
Député de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la première circonscription, député Lyotte, Liberté indépendant, Outre-mer et territoire. Vous nous direz comment vous accueillez les menaces américaines sur le Groenland, vous qui êtes élu de Saint-Pierre-et-Miquelon, mais également comment vous accueillez la décision de la France de s'associer à d'autres pays, dont l'Allemagne, qui envoie des soldats sur place. Et nous écouterons dans une minute. Nous écouterons également le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, Bernard Briand. 01 45 24 7000. Pour vos questions, vous qui nous écoutez, vous passez également via l'application Radio France et l'onglet Réagir. Stéphane Lenormand, je voudrais vous faire réécouter puisque vous étiez dans l'hémicycle hier au moment où le Premier ministre Sébastien Lecornu a pris la parole. Je voudrais vous faire réécouter ce qu'il a dit hier à l'Assemblée.
Il est clair que les intentions de l'administration Trump sont sérieuses et que nous ne devons absolument pas sous-estimer la parole du président américain. Cela positionne aussi évidemment la diplomatie française dans une pleine solidarité avec le Danemark et les autorités légitimes du Groenland. Car je rappelle, y compris pour celles et ceux qui pourraient être peut-être fascinés par la force ou l'épreuve de force, que le Groenland est un pays et territoire d'outre-mer, que la France aussi a ses territoires ultramarins et que pour rien au monde, nous voulons voir la remise en cause de la souveraineté des autres territoires, car nous n'accepterions absolument pas la remise en question de la souveraineté française sur nos propres territoires.
Quand le Premier ministre Sébastien Lecornu évoque l'hypothèse d'une remise en cause de la souveraineté française sur des territoires d'outre-mer, est-ce que vous le prenez pour Saint-Pierre-et-Miquelon ? Est-ce que ça fait écho chez vous, Stéphane Lenormand ?
Oui, bien sûr, hein, c'est un point de vigilance, le Premier ministre l'a rappelé. On a deux points communs avec le Groenland, c'est notre positionnement géostratégique en Amérique du Nord, et c'est notre statut et notre relation avec l'Union européenne, puisque Saint-Pierre-et-Miquelon et le Groenland sont dans la même association. Et qu'il est évident d'ailleurs que Trump nous a dans le collimateur, puisque il n'y a pas si longtemps que ça, lorsqu'il a proposé des augmentations faramineuses des taxes douanières, il avait ciblé Saint-Pierre-et-Miquelon et nous étions devenus quasiment le territoire le plus taxé du monde. Donc oui, c'est un sujet d'inquiétude et de vigilance, et je me réjouis de cette position forte de la France, mais qui doit aussi s'accompagner d'une position forte de l'Union européenne, parce que Trump est un voyou qui ne comprend que le rapport de force, et il ne faut absolument pas laisser passer cela. Et je dirais même qu'il faut contre-attaquer, et il faut aussi se rapprocher et amplifier nos relations avec le Canada, parce qu'il faut se rappeler aussi que le Canada est dans la mire des propos de Donald Trump.
Avant de vous donner la parole, notamment sur la réalité de la présence américaine sur place et si elle existe à Saint-Pierre-et-Miquelon, Stéphane Lenormand, je voudrais qu'on écoute Bernard Briand. C'est le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon. Vous le connaissez. Voilà ce qu'il nous dit, qu'il a alerté le gouvernement français il y a quelques jours sur les menaces que représentent les volontés de Donald Trump.
Alors, je n'ai pas eu Monsieur Lecornu, mais en tout cas, je l'ai interpellé dès la semaine dernière pour rappeler au Premier ministre eh bien, qu'il y avait trois territoires en Amérique du Nord qui n'appartenaient pas aux États-Unis. Alors, le Canada, le Groenland, mais aussi Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est un territoire bien français. En lui rappelant un peu les faits de l'histoire aussi, puisqu'en décembre 41, à l'initiative eh bien, du général de Gaulle, eh bien, il avait envoyé en mission secrète l'amiral Muselier pour rallier le territoire à la France libre, avant peut-être qu'il tombe dans les mains des États-Unis d'Amérique, qu'il puisse avoir une vigilance sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, parce que les propos, on les connaît, de Donald Trump, eh bien, partent tous azimuts. Et puis, aujourd'hui, sa politique autour de l'impérialisme, aujourd'hui, en tout cas, m'inquiète. Donc, j'ai, en saisissant le Premier ministre, eh bien, demandé quelles seraient les capacités, ou en tout cas, quels seraient les moyens qu'il serait en mesure de pouvoir mettre en œuvre, en tout cas, pour assurer la souveraineté du territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors il va y avoir en effet, a priori, la France qui devrait faire des essais, en tout cas militaires, au Groenland, mais n'oublions pas que Saint-Pierre-et-Miquelon aussi existe et que nous sommes très attachés à cette souveraineté française, cette souveraineté européenne en Amérique du Nord. Alors aujourd'hui, nous avons présent sur le territoire des gendarmes, environ une trentaine de gendarmes approximativement. Nous avons un bateau de la Marine nationale avec quelques moyens, mais qui reste mineur, en tout cas pour pouvoir assurer cette souveraineté si demain eh bien, les États-Unis souhaitent envoyer un destroyer au large de Saint-Pierre-et-Miquelon. Sans avoir une position alarmiste aujourd'hui, on doit regarder en tout cas ces intentions de Donald Trump avec beaucoup d'intérêt. Alors c'est vrai que localement, on entend un petit peu parler, mais je crois que le sujet devient de plus en plus d'actualité, sans pour autant avoir une peur bleue, en tout cas, d'une invasion ou de l'arrivée des États-Unis sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon. L'Europe, aujourd'hui, doit en effet montrer des positions fortes. Il y a des enjeux dans l'océan Indien, dans l'océan Pacifique, mais il y en a aussi en Amérique du Nord, et à l'heure où, justement, il y a des velléités des États-Unis de vouloir annexer le Groenland et pourquoi pas aussi le Canada, et bien nous, on souhaite à chaque fois défendre le territoire et je me veux forcément, en tant que président du conseil territorial, être extrêmement vigilant pour rappeler que ce territoire qui est bien français depuis 1816, et bien souhaite l'être encore pour les années à venir et pour toujours.
Bernard Briand au téléphone de Cécilia Arbonnat. Bon, vous êtes élu, Stéphane Lenormand, député de Saint-Pierre-et-Miquelon, vous défendez vos intérêts, vous alertez. Mais est-ce qu'on joue pas un peu à se faire peur quand même ?
Écoutez, je ne pense pas. Franchement, au-delà de Donald Trump, je pense que la politique qu'il exprime va perdurer au-delà de l'homme. Donc je pense qu'on est vraiment aujourd'hui, au niveau des relations diplomatiques, à un changement important qui doit se construire avec fermeté. Et je pense qu'il ne faut pas lui laisser un pli, vous savez, il ne comprend, je le répète, que le rapport de force. Et je pense que la réaction de la France, et celle que j'espère aussi plus affirmée de l'Union européenne, doit être une réponse qui va faire écho dans sa tête. Et je le répète, je pense aussi que c'est l'occasion pour nous de modifier nos règles de diplomatie et d'aller chercher un plus grand partenariat encore avec le Canada et le Québec pour contrecarrer ces visées expansionnistes.
quelques, pour l'instant, dizaines de soldats français au Groenland, même s'ils sont rejoints par d'autres moyens maritimes, terrestres et aériens, a dit le chef de l'État il y a quelques minutes. Qu'est-ce que ça pèse face à la machine, à l'armada américaine, Stéphane Lenormand ?
Alors on va pas se mettre à ce niveau-là, on va pas rentrer en guerre dans l'immédiat avec les États-Unis. Je crois qu'aujourd'hui l'important c'est la fermeté que doit afficher l'Union européenne et la France, comme vient de le faire le Premier ministre, par rapport à ce genre de propos. Ensuite, il est évident qu'à un moment donné, la diplomatie devra se concrétiser avec peut-être des manifestations, naturellement, parce que la France et l'Europe ont une capacité militaire à imposer plus de présence dans la zone pour faire comprendre à Donald Trump que ça ne se passera pas comme ça. Je pense qu'on a vraiment cette nouvelle stratégie diplomatique à avoir à l'égard des États-Unis. Alors c'est un changement brutal puisque les États-Unis ont toujours été un partenaire, mais aujourd'hui on est obligé de s'adapter à ce que nous impose Donald Trump. Et je pense qu'il ne faut absolument pas le prendre à la légère et il faut être ferme, c'est-à-dire montrer tout simplement des muscles, puisque c'est le seul message qui est en capacité de comprendre Donald Trump.
Vous demandez qu'il y ait davantage de moyens militaires français à Saint-Pierre-et-Miquelon, Stéphane Lenormand ?
Je ne pense pas qu'on en soit là. C'est aujourd'hui une première étape, c'est le Groenland. De la réponse qui sera faite de l'Union européenne par rapport aux visées sur le Groenland peut dépendre à un moment donné une autre prise de conscience que l'on a réellement un Donald Trump qui veut aller jusqu'au bout. Je ne souhaite pas arriver à cet état-là, mais s'il advenait que, bien sûr, je suis attaché à la souveraineté française sur mon territoire, en sachant que des hommes et des femmes ont donné leur vie pour la mère patrie. Donc je verrais mal la diplomatie française s'écraser devant le compresseur Trump.
Que répondre à un Donald Trump qui dirait les Français sont venus s'installer sur cette terre qui est de l'autre côté de l'Atlantique, qui est bien loin de l'Europe et au fond Saint-Pierre-et-Miquelon c'est pas très loin des États-Unis, donc c'est dans notre sphère d'influence.
Oui, mais Donald Trump n'est pas le chef du globe il faut le remettre à la raison. Du reste, je ne suis pas sûr non plus que toute son administration, y compris militaire, soit en parfaite adéquation avec les propos qu'il tient régulièrement, puisqu'il est clairement dans une surenchère verbale, mais qui doit nous inquiéter. Et je pense que le Premier ministre a été clair. Il faut prendre au sérieux Donald Trump, même lorsqu'il dit des énormités.
Question de Cécile via l'application Radio France. Bonjour, je pense à la population du Groenland qui est la première à être inquiète de cette situation. Sait-on ce qu'elle en pense ? Souhaite-t-elle rester en territoire danois ? Revendique-t-elle son indépendance, cette population ? Ou veut-elle se rapprocher des États-Unis ? Je crois, Stéphane Lenormand, que vous vous êtes déjà rendu au Groenland et que vous avez eu l'occasion d'échanger avec les représentants de la population et avec la population elle-même.
Oui, bien sûr, puisque l'on siège avec le Groenland au niveau des relations avec l'Union européenne. Alors, si vous voulez, le Groenland a, c'est à peu près une population d'un peu moins de 60 000 habitants. Il y a une population autochtone qui a une relation particulière avec, l'Union européenne au travers donc du Danemark. Il y a aujourd'hui des autorités qui dirigent ce territoire. Et il y a une relation très forte en termes d'investissement de l'Union européenne. Après, c'est vrai qu'il y a une volonté un peu, je dirais, de décentralisation du Groenland par rapport au Danemark, comme l'on peut l'avoir d'ailleurs dans une bonne partie des territoires d'outre-mer, parce qu'on a des réalités géographiques qui sont un peu éloignées de l'Union européenne. Donc c'est vrai qu'il y a une volonté d'un peu plus d'autonomie, mais elle n'est pas forcément pour aller chez l'ogre américain, et surtout de cette façon. Donc je pense que la population, elle tient à avoir la main mise de son territoire et de son histoire et de poursuivre la gestion de ce territoire qui est énorme, plus de 2 millions de kilomètres carrés.
On parle de l'état d'esprit de la population au Groenland. Quel est l'état d'esprit de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon ? Est-ce que ces craintes, elles alimentent aussi la conversation des habitants ?
Alors, on en parle plus sur la dimension incontrôlée des propos que sort régulièrement Donald Trump. Il faut que ce soit dans l'Hexagone ou dans les Outre-mer. Lorsque l'on voit quand même le président américain, première puissance militaire, avoir ce genre de propos, qui à la fois sur la forme et sur le fond dénote d'un changement important. On a vu ce qu'il a fait au Venezuela. Il y a trois territoires PTOM néerlandais à côté du Venezuela. Curaçao,
PTOM, Bonaire, Stéphane Lenormand, vous nous décryptez ?
Pays et territoires d'outre-mer associés à l'Union européenne.
C'est le statut de Saint-Pierre-et-Miquelon.
C'est le statut de Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est le statut de la Polynésie, de la Nouvelle-Calédonie, du Groenland et d'un certain nombre de territoires néerlandais. Et eux, ils sont situés juste en face du Venezuela. Donc, il y a un vrai enjeu aussi pour l'Union européenne. C'est pour ça que je parle de manière générale de l'Union européenne et je ne reviendrai pas sur, naturellement, les territoires que la France possède dans les Caraïbes, avec les Antilles, par exemple. Donc, on a cette position à avoir très ferme par rapport à un Donald Trump qui est sans frontières.
Il y a déjà des intérêts américains à Saint-Pierre-et-Miquelon, implantés économiques par exemple, très peu ?
Non, très très peu. Nos relations sont essentiellement basées avec le Canada.
Question Oui, allez-y.
Non, allez-y, c'est vraiment notre plateforme d'acheminement, on passe par le Canada.
Question de Jean-Yves, je voudrais réagir sur les dernières infos. Selon le président, on a doublé, dit-il, le budget de la défense durant ses mandats, et pendant ce temps-là, c'est sa remarque, la santé et l'éducation crèvent. Trop d'argent pour la défense et pour le militaire, Stéphane Lenormand, vous qui êtes député de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Écoutez, nous sommes sur le budget. Moi, je fais partie de ceux qui espèrent que nous allons avoir un budget pour un minimum de stabilité et de lisibilité. Mais c'est vrai que dans le budget, qui est un budget extrêmement difficile à réaliser sans majorité et avec des besoins en santé, il faut aussi, compte tenu de la situation internationale, renforcer nos moyens militaires. Donc c'est un exercice extrêmement difficile, mais on ne peut pas aujourd'hui faire abstraction de la nécessité de renforcer nos moyens militaires, parce que je rappelle quand même aussi que la guerre, elle est à la porte de l'Europe, puisque l'Ukraine, après l'Ukraine, vous avez la Pologne. Donc je crois que je peux comprendre cet auditeur, mais il faut bien voir que nous sommes dans un monde où aujourd'hui, qui est extrêmement anxiogène et il faut s'y préparer.
Merci Stéphane Lenormand d'avoir été avec nous aujourd'hui dans ce 13-14. Député Liotte, Liberté indépendant Outre-mer et territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, 13h46 sur Inter. Une semaine dans leur vie. Nous sommes en montagne depuis le début de la semaine, dans les Alpes, aux côtés des gendarmes qui assurent la sécurité et le secours en cas d'accident, en cas d'avalanche, comme ce fut le cas le week-end dernier, avec 6 morts. Et cette présence est saluée par les professionnels de la montagne. Alors aujourd'hui, nous partons à la rencontre de skieurs et de professeurs de ski dans la station de Serre-Chevalier.
Vous étiez à quel numéro pour vos chaussures ?
Numéro 4.
Numéro 4. Les petites baskets au numéro 4, je les trouve pas là. Elles sont ici. La petite journée frisquette.
Ouais.
Vous saviez combien il faisait là-haut ?
Moins 15, je crois, aujourd'hui.
Il y a moins 17 au sommet, ouais. Avec le petit vent. Avec le petit vent qu'il y avait, les degrés tombent vite.
Bonjour, je m'appelle Édouard Doliger, je suis gérant de magasin de sport à Serre-Chevalier et à La Grave et directeur d'une école de ski indépendante. Alors le PGHM, on bosse conjointement parce qu'on est professionnels de la montagne. C'est un peu nos anges gardiens et les anges gardiens de tous les pratiquants de la montagne qui sont toujours à nous envoyer les petites informations pertinentes sur les différents secteurs, sur les différentes conditions de risque. Et nous, ça nous permet de les relayer au grand public, dans les magasins, dans les écoles de ski. On entend l'hélico qui est en train de passer au-dessus du magasin, qui va aller se poser sûrement sur le toit de l'hôpital de Briançon. Ça reste des humains et quand on envoie un équipage du PGHM, il y a toujours une part de risque, même s'il y a un surentraînement de ces secouristes. Hein.
Salut ! Bon bah bonjour, moi je m'appelle Lily, j'ai 12 ans et depuis que je suis petite, j'habite à la montagne. Donc je fais souvent de ski en hors-piste. Bah c'est vrai que le risque d'avalanche et tout et d'hors-piste, ça me fait plutôt peur. Mais je me dis qu'on est quand même bien encadré et qu'il y a vraiment des gens pour nous aider, pour nous apprendre. Et il faut toujours, de toute façon, il y a toujours des risques et il faut le savoir ça. Et puis d'ailleurs, on a tout l'équipement nécessaire, on a Donc les sacs, les DVA, donc tout pour trouver une personne, les dorsales, les casques, donc l'équipement nécessaire. Et donc sous aucun prétexte, sans ces équipements, on va hors piste parce que ça peut être très dangereux.
Ouais, c'est comment là-haut ?
Froid.
Oui, sûrement.
Je suis Charles Corsin, je suis skiman et j'ai 28 ans. Je vois des comportements de jeunes imprudents. Après, à quoi ça sert d'être jeune, c'est pour pas être imprudent de temps en temps. Ce qu'il faut, malgré tout, c'est maîtriser sa vitesse et être sûr de ses compétences avant de prendre la dite vitesse en question. Moi-même, t'entends, j'aime bien aller vite et tout. Après, j'ai passé l'âge de foncer à Mach 12 au milieu des personnes, en effet. On le voit passer tous les jours, l'hélico. Donc il y a quand même un côté où à chaque fois qu'on le voit passer, on sait qu'il y a quelqu'un qui s'est fait mal à l'intérieur, quelqu'un qui était en danger, en tout cas juste avant. D'une certaine façon, on préférait ne pas le voir, entre guillemets. Après, nous, le PGHM, c'est les gens qu'on connaît, c'est les gens qui passent ici tantôt au magasin. On sait à qui s'en tenir, on sait que notre vie est entre guillemets, en sécurité avec eux, en tout cas, on a plus de chances de l'être.
Là, il y a le PGHM qui vient de repasser pour la deuxième fois, donc ils retournent au même endroit, donc peut-être qu'il y a deux victimes à sécuriser. Quand on voit passer la machine, l'hélicoptère de la gendarmerie dans la vallée, on espère toujours que ce soit pas un cas grave, que ce soit pas un de nos confrères, un de nos collègues, un de nos clients, un de nos gamins, hein, ça peut arriver. Donc c'est pour ça que, avant de l'entendre passer au-dessus de nos têtes, le message le mieux à passer, c'est la sécurité et de faire les bonnes préventions.
Notre feuilleton dans les Alpes à retrouver sur le site et sur l'application Radio France.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, le jeudi 13h50, la France à table avec Marilus Ribaud du journal Sud-Ouest. Marilus, la fermeture annoncée de l'usine Tesser en avril en Isère pourrait laisser croire que le secteur du sirop à l'eau se porte mal, il n'en est rien.
En effet, l'entreprise leader sur le marché français annonce une situation économique et financière, je cite la direction, extrêmement difficile. Or, à l'opposé de ce géant, né en 1720 à Grenoble, une quinzaine de siropiers, c'est ainsi qu'on les nomme, oui, coulent des jours beaucoup moins chaotiques. Sur 12 mois glissants, de novembre 2024 à 25, la filière annonce même une croissance de 5%.
Bon, mais Tesser, c'est quand même une marque emblématique.
L'une des premières à sponsoriser le Tour de France en 1957 et qui lance le fameux bidon en s'inspirant des gourdes des cyclistes. Tesser, c'est l'enfance, la couleur mentalo et le cœur grenadine. C'est aussi un quartier de Grenoble, l'histoire d'un homme du XVIIIe siècle, Mathieu Tesser, qui invente une liqueur de cerise dont Stendhal assure la renommée. Sur ces bases, et grâce au procédé de pasteurisation découvert à la fin du 19e siècle, la fabrique se diversifie en 1927 dans les sirops sans alcool. Le début de la gloire. Mais aujourd'hui, Tesser, c'est une entreprise avalée dans un groupe anglais, Britvic, lui-même passé dans les mains du brasseur danois Carlsberg. La direction invoque un outil vieillissant pour délocaliser la production chez un sous-traitant au Havre. Le personnel incrimine un sous-investissement organisé pour justifier la fermeture du site. Tesser, Jérôme, est somme toute un nouveau symbole de lutte contre la désindustrialisation d'un fleuron local, sacrifié sur l'autel de la rentabilité d'un groupe international.
Oui, mais si on regarde plus largement, et vous l'évoquiez, Marilus, le secteur n'est pas malade.
Oui, on imaginait que la consommation de soda et de jus de fruits avait tout emporté, mais pas du tout. Le sirop, c'est le produit qui ne fait pas de bruit, qui traverse le temps sans tapage publicitaire. Il est même une passion française. Savez-vous que nous sommes les deuxièmes consommateurs dans le monde, après les Anglais, et les premiers, quasiment les seuls d'ailleurs, producteurs en Europe. Une étude récente de Business Scout nous révèle que dans un marché mondial en croissance, chaque foyer français consomme tous les ans 50 litres de sirop à l'eau. Et ce chiffre, Jérôme, oscille très peu depuis les années 60. Côté production, un siropier comme le distrait Monin n'est pas roi en son pays, mais tout simplement leader mondial avec ses 9 usines disséminées sur la planète. Philippe Lassalle-Saint-Jean est à la tête de l'entreprise familiale Menot, à côté de Bordeaux, engagée dans le tout bio depuis les années 90. Nos fabriques françaises sont quasiment toutes des marques familiales, historiques, et aujourd'hui, cela rassure le consommateur, nous dit-il. Le sirop bénéficie d'été qui s'étire jusqu'au début du mois de novembre, du retour en grâce des cocktails, et c'est de saison du Dry January. Face aux boissons toutes prêtes, il offre cette liberté de pouvoir diluer la quantité de sucre comme on l'entend, et peu à peu, dans les yaourts, les gâteaux, un exhausteur de goût, il devient un ingrédient populaire de la cuisine.
Car le sirop, et on en vient à notre recette, cela ne se déguste pas qu'avec de l'eau.
Philippe Lassalle-Saint-Jean nous invite à préparer un café très très gourmand. Versez un expresso dans un mug, ajoutez 20 ml de sirop de caramel, délayez 150 ml de lait végétal chaud, touche finale surmontée d'un nuage de crème fouettée, d'un filet de caramel liquide et au diable le combat contre les calories.
Merci Marie-Luce Ribot, le sirop à l'eau, grand gagnant du réchauffement climatique. C'est la France, tous les jeudis avec vous. De C'est la France, c'est une chanson, c'est un compositeur, batteur également, qu'on retrouve à votre micro, Frédéric, c'est Arnaud Dolmen.
Arnaud Dolmen, sacré artiste instrumental de l'année lors des dernières victoires du jazz. Il sera en concert demain soir au New Morning à Paris. Et c'est une chanson de Patrick Saint-Éloi qu'il a souhaité que l'on écoute. Patrick Saint-Éloi, l'un des membres du groupe Cassave. La chanson s'appelle « Son tamboula ». Et elle ramène Arnaud Dolmen à son enfance en métropole, puis en Guadeloupe.
Je suis né à Bar-le-Duc. Mon père était militaire de carrière. Après, on a été vivre à Tarbes, dans le sud. Et à l'époque, donc moi je suis né en 85, c'était l'explosion vraiment du zouk. Et j'avais un oncle qui était étudiant à Toulouse, qui venait souvent nous rendre visite à Tarbes, et qui était fan de Patrick Saint-Éloi. Et son album de chevet, c'était l'album de Patrick Saint-Éloi qui s'appelle « Musique, c'est l'amour ». Et voilà, les premiers souvenirs que j'ai de la musique, c'est avec cet album en fait. Et son à tamboula, parce que le tambour, c'est quelque chose qui m'a bercé depuis tout petit. Je suis batteur moi-même. Le tambour, c'est ce qui m'a connecté vraiment avec mon île, qui est la Guadeloupe. Et aussi, mon premier tambour m'a été offert par mon oncle, justement. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce titre.
Il a été très important, cet oncle, pour vous?
Oui, très important. C'est lui qui m'a inscrit, justement, quand je suis rentré en Guadeloupe, j'avais 4 ans. C'est lui qui m'a inscrit dans l'école de Georges Troupé. Donc, c'est là que j'ai commencé vraiment à faire de la musique à Sainte-Anne. Et avec son premier salaire, eh bien, il m'a offert ce tambour.
Il se prénomme comment?
Christian Baptiste. Voilà.
C'est en 1982 qu'est sortie cette chanson de Patrick Saint-Éloi, Frédéric.
Un artiste auquel Arnaud Dolmen voue une admiration sans borne.
J'ai eu l'occasion de le voir sur scène, même j'ai eu l'occasion avec le groupe Soft de faire sa première partie au Zénith de Paris. C'était un grand moment. Et Patrick Saint-Éloi, pour moi, c'est un des plus grands chanteurs, compositeurs, concepteurs de la musique qu'on ait eu aux Antilles françaises.
On le présente comme l'inventeur du Zouk Love.
Oui, ça a été l'un des inventeurs du zouk tout court. Alors effectivement, il a fait beaucoup de chansons d'amour, mais par exemple, le morceau « Son à tamboula », c'est un morceau pour moi qui est très engagé finalement. Parce que dans ce morceau, il te dit qu'on a essayé en fait de nous retirer ce tambour. Il y a des gens qui ont fait de la prison pour ça. Eh bien, le tambour restera là. Parce que c'est notre culture, c'est notre instrument et c'est notre héritage.
Des gens sont allés en prison parce qu'ils jouaient du tambour?
Oui, parce que c'était interdit, c'était vu comme quelque chose à vieux nègre en fait. Et il y a des gens qui se sont révoltés et qui ont fait de la prison pour ça en fait. Et donc c'est pour ça que c'est une chanson de résistance qui montre à quel point le tambour est important.
Votre oncle, il vient souvent vous voir en concert?
Oui, mon oncle, il vient me voir en concert. Mon oncle et ma famille, formidable. Déjà mes parents, mon grand frère, mes tantes et oncles, mes cousins et cousines, on est très très soudés. Donc pour moi, c'est très très important. Et la famille que moi, je constitue aussi avec ma femme et mes deux filles, pour moi, c'est mon socle en fait.
Et cette chanson-là, il vous arrive encore de l'écouter?
Oui, cette chanson-là, l'album Musique c'est l'amour. Musique c'est l'amour, ça veut dire la musique c'est l'amour. Donc c'est quelque chose qui me touche et je suis complètement d'accord avec ça. Et cet album, c'est vraiment les prémices du zouk en fait. C'est un album révolutionnaire. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en moi et qui me suit jusqu'à aujourd'hui.
Son tamboula, le son du tambour en créole guadeloupéen. Patrick Saint-Éloi. C'était donc Frédéric le choix du percussionniste Arnaud Dolmen.
Arnaud Dolmen qui sera en concert demain soir au New Morning à Paris, puis à la fin du mois il jouera à Albi, à Aix-en-Provence et à Rouen.
Merci Frédéric et à demain. Bonjour Mathieu Vidard.
Jérôme Cadet, bonjour.
Que se passait-il avant les dinosaures ?
Eh ben, il y avait déjà des mammifères, figurez-vous, et c'est leur grande histoire qu'on va vous raconter dans un instant.
A tout de suite dans la Terre au Carré.